sobre Berlim. O mundo desde o fim. E no entanto era um sim. E foi, era e é e será assim. E foi, era 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 e será assim. E será assim.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous allons entendre cette semaine dans notre émission le journaliste franco-libanais Anthony Samrani. Anthony Samrani est co-rédacteur en chef du journal libanais francophone L'Orient le Jour. De passage à Paris au début du mois de décembre 2024, il est intervenu dans différents médias pour témoigner sur la guerre du gouvernement israélien au Liban. Et il a participé à une rencontre à l'Institut du Monde Arabe à Paris le 9 décembre pour parler de son livre « Vue du Liban, la fin d'un pays ». La fin d'un monde, point d'interrogation. Publié dans la collection Tract de Gallimard. J'ai enregistré son entretien avec la journaliste Olivia Jesbert, donc à l'Institut du Monde Arabe, et je vais vous en faire entendre quelques extraits.
Je pense que le Liban est un endroit très intéressant pour voir des choses qu'on ne voit pas nécessairement, par exemple, de France ou d'autres pays. C'est un endroit où on peut observer les dynamiques, on peut observer les failles, on peut observer les zones d'ombre, on peut observer les... Est-ce que Gaza est une guerre supplémentaire dans l'histoire israélo-palestinienne ? Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est un point de rupture. C'est un point de rupture non seulement pour la région, mais c'est un point de rupture à l'échelle internationale. C'est un point de rupture parce que, quelque part, il y a une parenthèse qui s'était ouverte le 11 septembre 2001 et qui est en train de se refermer, je pense, avec la guerre de Gaza. C'est-à-dire que l'ordre international libéral, qui a été l'utopie à laquelle se sont accrochés les pays occidentaux et d'autres pays dans le monde pendant très longtemps, elle avait été fragilisée en 2001, elle l'avait été encore davantage en 2003 avec la guerre en Irak, puis avec la guerre syrienne, puis avec la guerre en Ukraine, etc. Et Gaza sonne un peu comme le dernier clou dans ce cercueil. Il est très difficile de croire encore à quelque chose après ce qui s'est passé à Gaza.
D'abord, il y a l'explosion quand même des beepers. Hein. C'est sur cette explosion que s'ouvre votre livre, Anthony Samrani. Attaque surprise, massive, contre des cadres du Hezbollah, puis les bombardements, notamment dans le sud ou sur le sud du pays, mais ça va remonter jusqu'à Beyrouth. Hassan Nasrallah est mort, et vous l'écrivez, l'assassinat de l'homme le plus adoré et le plus détesté du Liban va créer comme une secousse, voire un cataclysme. Un monde vient de s'effondrer sous nos yeux, dites-vous. Pourquoi ? Quel monde ?
Je replace un petit peu la scène. On est au journal. Le journal se situe à peut-être 3-4 km maximum de l'endroit où Hassan Nasrallah a été assassiné. On entend d'un coup, tout l'immeuble tremble, on entend des bruits de bombes très très forts, on parle de 90 bombes, 80 bombes, de 900 kilos chacune. On entend des cris dans le journal, il y a une forme de panique et on se précipite sur le toit. Et là on voit une épaisse fumée qui se dégage au-dessus de la banlieue sud et tout le monde a compris à ce moment-là, ça ne peut être que Hassan Nasrallah. Et la mort de ce personnage qui était si important, qui structurait la vie politique libanaise, qui était considéré comme un demi-dieu par une partie aussi des Libanais, qui avait une dimension régionale très forte, encore plus après l'assassinat de Qassem Soleimani, ouvrait tout à coup, le champ des possibles. Le champ des possibles dans le sens où le jeu politique était complètement fermé, d'un coup il s'ouvre, avec une possibilité que les choses s'améliorent, mais aussi avec une possibilité que la situation se dégrade encore, et les risques de guerre civile, le spectre de la guerre civile qui fait tout de suite son retour.
Quelle est la première émotion à ce moment-là ?
C'est le choc, c'est la stupeur, et quelques minutes après, on appelle notre fille, Caroline, qui est dans la salle, ma femme est journaliste aussi, et on appelle notre aîné qui a 6 ans, et là, on l'a en vidéo, sur le téléphone, et elle me pose cette question, « Papa, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et je ne sais pas quoi lui répondre, et je n'ai pas un mot. C'est-à-dire que ça fait un an, à ce moment-là quasiment, que je suis obsédé nuit et jour par la possibilité qu'une guerre totale éclate au Liban, que j'imagine tous les scénarios, que je lis tout ce qui est possible de lire sur le sujet, et je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas quoi lui dire parce que comment on explique à un enfant quelque chose d'aussi complexe ? Qu'est-ce que je dois lui dire ? Je dois lui dire que Israël est en train de bombarder le Liban, qu'il peut l'envahir, que c'est une énième guerre. Je dois lui dire que le Hezbollah nous a entraînés dans une guerre dans laquelle on n'avait absolument rien à gagner et tout à perdre. Comment on explique ça à un enfant ? Et j'étais vraiment, j'étais sans mots.
Au service pédiatrie de l'hôpital Dar el Amal, le personnel a gardé sur les murs des fleurs et des messages d'espoir. Mais derrière ces portes se cache l'enfer de la guerre. Voici Céline, elle a 3 ans. Le 28 octobre, elle était avec sa famille chez elle à Boudaï lorsqu'un bombardement israélien a visé le domicile, tuant l'ensemble de sa famille. Aujourd'hui orpheline, c'est son oncle qui se tient à ses côtés, encore sous le choc.
كانت من الصدمة برات البيت لعيني هي كانت بغرفة على جنب يمكن الله هو أنقذها إسرائيل معودتنا على المجازر وين ما كان مظلومين كل حدا بيموت مظلوم هو شهيد والعدو الصهيوني عدو جزار ما بتفرق معه طفل كبير صغير رضيع أم ولد شاب
Il y a encore peu de temps, Céline était entourée des membres de sa famille, tous souriants. Ses deux parents étaient enseignants dans la région. Aujourd'hui, elle les appelle nuit et jour, écrit de douleur. Les infirmières, qui ne quittent presque jamais cet hôpital, tentent de la maintenir dans un environnement sain. Mais la guerre n'est jamais bien loin. Cet hôpital se situe dans la zone appelée à évacuer par les Israéliens le 30 octobre. Son directeur médical refuse toutefois de fermer les portes.
Quoi faire avec le malade, les malades? Quoi faire? Dire sorry, nous sommes out of service, nous pouvons pas, c'est notre mission.
À l'étage, une autre famille est arrivée la veille. Celle-ci avait pourtant suivi les ordres d'évacuation de l'armée israélienne et avait quitté la ville de Baalbek pour la périphérie. Alors que la mère accompagnait son fils de 22 ans pour qu'il récupère son salaire de la sécurité de l'État et pour que sa fille puisse avoir un entretien en ligne avec son ONG locale, au moins 3 missiles ont pris pour cible le véhicule. Leur autre fils de 14 ans est également mort dans l'attaque. Le père affirme qu'aucun membre de la famille ne faisait partie du Hezbollah. Mais que face à la douleur, Israël les pousse aujourd'hui vers d'autres voies. Le jour de notre reportage, des dizaines de frappes israéliennes viseront cette région. Nous nous rendrons sur le lieu de l'une d'entre elles, où là encore, toute une famille sera retrouvée morte sous les décombres. L'une des journées les plus sanglantes pour la Beka, avec un bilan total de plus de 50 morts.
Après ces premiers mots d'Anthony Samrani sur la guerre d'Israël au Liban, vous venez d'entendre un reportage de la chaîne libanaise L'Orient le Jour, repris sur la page Facebook du journal. Il est possible en effet en France de s'abonner au journal libanais francophone, mais il est possible aussi de suivre l'actualité sur la page Facebook du journal qui est très bien faite et toujours actualisée. C'est d'ailleurs sur cette page que j'ai pu lire le dernier bilan de la guerre d'Israël au Liban. Alors, il y a un panneau avec marqué « Bilan général », il y en a eu plusieurs, mais enfin, ça c'est le dernier que j'ai vu. 4047 morts, 16 593 blessés, 990 femmes tuées, 306 enfants tués, 206 secouristes tués. Anthony Samrani raconte d'ailleurs aussi dans « Vue du Liban » comment il a dû mettre ses enfants à l'abri en France, comme l'avaient d'ailleurs fait ses parents pendant la guerre civile qui, comme vous le savez, a duré de 1975 à 1990. Et c'est sa femme Caroline Hayek, journaliste aussi et grand reporter à L'Orient le Jour, titulaire également du prix Albert Londres, qui le raconte sur France Info.
Bonjour Caroline Hayek.
Bonjour.
Avec nous en studio, grand reporter à L'Orient le Jour, le quotidien francophone libanais. Avant de parler de votre pays, je vais vous demander de parler de vous, parce que toutes ces questions, elles se posent aussi très concrètement pour vous. Vous avez fait le choix tout récemment de quitter le Liban. Pourquoi? Racontez-nous.
Alors je vais pas m'attarder beaucoup sur ma situation personnelle parce que ce serait indécent au vu de la situation au Liban. En fait, oui, j'ai fait le choix. Mon mari et moi sommes tous les deux journalistes. Et nous avons fait le choix d'envoyer nos enfants en France. Nous sommes tous les deux franco-libanais pour les mettre à l'abri parce qu'en fait nous habitons dans la banlieue de Beyrouth et donc le son des bombardements était forcément très violent et nos enfants étaient marqués par ces bruits-là. là nous posait énormément de questions. Et nous, en tant que journalistes, nous ne savions absolument pas quoi répondre à des enfants de 6 ans et 3 ans. Donc voilà, j'ai essayé de mettre ma famille à l'abri. Et dès que possible, en fait, je rentrerai au Liban.
Mais cette expérience, c'est celle de millions de Libanais.
Cette expérience, pas vraiment, parce que pas tout le monde a la chance d'avoir une double nationalité et d'avoir les moyens aussi de partir. On sait que l'aéroport est très limité. Il n'y a que la Middle East Airlines, l'aviation libanaise, qui vole au-dessus dans le ciel libanais, qui est constamment bombardé. Donc là, les Libanais cherchent à se réfugier déjà dans des zones entre guillemets sûres à travers le pays.
Il y a la crainte des bombardements. Puis il y a la crainte aussi, on l'entend parfois, on va peut-être d'ailleurs l'entendre dans la bouche des responsables le français, la crainte d'une guerre civile, en tout cas de divisions très profondes qui existent depuis très longtemps. Et cette emprise du Hezbollah, il faut bien expliquer aux Français ce qu'est le Hezbollah aujourd'hui pour des Libanais.
Le Hezbollah aujourd'hui est très très affaibli. Il est en train de vivre, la communauté chiite est en train de vivre le pire moment, un moment tragique, le pire moment de son histoire. En même temps, quand je parle à des personnes issues de cette communauté, il y a le sentiment que la guerre n'est pas terminée, que il faut comprendre qu'en fait ils ont grandi toutes ces générations au sein de, je ne dis pas que toute la communauté chiite est pro Hezbollah, mais une grande partie. Il faut comprendre qu'ils ont grandi avec un sentiment de brise, avec le sentiment que le Hezbollah était là pour les défendre, après des années à se sentir piétiné, à ne pas se sentir profondément libanais et part de la société libanaise. Donc aujourd'hui, oui.
Le Hezbollah, c'est à la fois donc, un parti politique, mais qui dispose d'une armée, hein, enfin d'une milice en tout cas, de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ce qui évidemment change complètement par rapport au reste des composantes de la société libanaise.
Oui, clairement, ouais, qui menace, qui n'hésite pas à terroriser la population, qui est descendu, qui a envoyé ses hommes au moment de la révolution en 2019, quand le peuple libanais manifestait contre la classe politique au pouvoir, qui n'hésite pas à faire taire les intellectuels et les voix dissidentes. Donc oui, c'est une pieuvre qui a mis ses mains dans toutes les institutions de l'État, et c'est un vrai problème pour le Liban.
Et le fait qu'il soit affaibli, puisque depuis un mois il l'est, comme vous le dites, de manière historique, quels sont les sentiments des Libanais par rapport à ça?
Alors il y a une partie des Libanais qui sont contents de cet affaiblissement, qui l'attendaient, mais c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que une autre partie de la population est complètement désespérée. En fait, la communauté, le défi qui se posera dans les prochains mois, les prochaines années, c'est comment intégrer la communauté chiite, lui faire comprendre qu'elle peut sortir du giron du Hezbollah et qu'il y a une autre alternative pour être intégrée au sein de la société.
Ouais, parce que les chiites, ils représentent quoi aujourd'hui, à peu près 30%?
Voilà, 30%. Il n'y a pas eu de recensement depuis 1942, donc c'est un peu difficile à dire, oui, mais à peu près 30% de la population.
Tout ça dans un pays, on le rappelle, hein, qui est une mosaïque de communautés. Oui. De confessions, il y a des musulmans chiites, des musulmans sunnites, des chrétiens de toutes confessions. Oui. Et tout ça d'ailleurs fait dire aux Français, je le disais, et aux autorités françaises, qu'il y a un énorme risque évidemment pour la paix civile au-delà des bombardements israéliens. Jean-Yves Le Drian, par exemple, qui est l'émissaire spécial d'Emmanuel Macron au Liban, il disait ceci hier soir chez nos confrères de LCI.
J'ai dit à plusieurs reprises que le Liban est en danger de mort, je le maintiens aujourd'hui. Le fait que le sud du Liban soit bombardé aboutit à des déplacements de population très importants. Si ça continue comme ça, il y aura des tensions très fortes entre les communautés.
Caroline Hayek, les tensions, elles sont déjà là?
Elles sont clairement déjà là, je le constate toute la longueur de journée sur le terrain, de ce que j'entends des personnes que je rencontre. Il y a une peur d'accueillir les membres de la communauté chiite dans les régions, on va dire, sûres, dans les régions chrétiennes, les régions sunnites.
Parce que ces personnes fuient et
ces
se réfugient.
Ces personnes fuient et ne sont pas toutes pro-Hezbollah, et pourtant elles se voient refuser des locations, des logements, parce qu'en fait les Israéliens sont prêts à débusquer n'importe quel membre du Hezbollah, et donc ça peut très bien tomber sur sur un immeuble qui est composé de civils, chrétiens ou sunnites. Voilà. Donc il y a une peur bleue, les gens sont terrorisés, ils ne veulent absolument pas accueillir de chiites. Et puis il y a un sentiment aussi que j'entends, voilà, ils ne sont pas comme nous, c'est des gens du Sud qui sont pauvres, qui ont une idéologie à laquelle nous n'adhérons pas, donc c'est leur problème. Donc en fait, là, en ce moment, c'est certain qu'il y a les graines qui sont en train de germer d'une possible guerre civile, et c'est ce qui nous effraie le plus.
C'est pour cela qu'il n'est pas exagéré de dire qu'il y a un risque de guerre civile, comme le disait Sébastien Lecornu ou Jean-Yves Le Drian.
Clairement, parce que déjà, il faut rappeler la situation du Liban. Donc depuis 2019, c'est un État failli, qui n'a pas de président de la République depuis 2 ans, économiquement qui est à bout de souffle, mais qui est au bord du gouffre, qui est en danger de mort, comme le rappelait Jean-Yves Le Drian. Et puis la crise humanitaire est telle, enfin, on parle d'1 300 000 déplacés à travers le pays, enfin, c'est quand même énorme, sans compter tous les réfugiés syriens qui étaient déjà présents sur le territoire.
Ce qui pose cette question avant cette conférence de Paris tout à l'heure, si on aide le Liban aujourd'hui, est-ce qu'on n'aide pas en même temps le Hezbollah à reprendre pied ?
Non, c'est une guerre contre le Hezbollah, mais qui touche l'ensemble des Libanais. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. Personne n'est à l'abri. Il y a des morts civiles, il y a des destructions. Le sud Liban est complètement rasé. Des villages entiers sont détruits. Pour aider le Liban sans faire le jeu du Hezbollah, il faut absolument déjà, première chose, obtenir un cessez-le-feu au plus vite, que cet engrenage de la violence cesse et permettre la reconstruction et dans une étape ultérieure, permettre aussi aux composantes politiques de se ressouder et faire en sorte que la communauté chiite, encore une fois, soit intégrée.
Mais même le cessez-le-feu, vous avez des personnes, notamment en Israël, qui vous diront, mais s'il y a un cessez-le-feu aujourd'hui, ça va permettre au Hezbollah de reprendre son souffle.
Écoutez, je ne crois pas qu'en bombardant de manière acharnée le Hezbollah et l'ensemble du Liban pendant des mois, voire des années, le Hezbollah va disparaître du jour au lendemain. C'est une idée complètement absurde, c'est une idéologie. Au contraire, plus Israël va faire usage de la violence, plus il y aura de nouveau des 7 octobre, des guerres comme à Gaza, comme au Liban. On est très très pessimiste à ce niveau-là.
Au moment où tout ça arrive, vu du Liban ou vu de l'étage de l'Orient le Jour, quelle position, quel débat au sein du journal? Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que vous prenez la voix de l'ensemble de la rédaction? Ou est-ce qu'en fait c'est presque impossible parce qu'il y a des discussions, des divergences, des antagonismes qui commencent à se manifester, y compris au sein du journal?
Ce livre doit beaucoup à l'Orient le Jour. Et moi je n'aurais pas pu l'écrire sans être à l'Orient le Jour. Il doit beaucoup aussi à des gens avec qui j'ai eu des débats très forts, très intenses, parfois parce que ils ont un lien affectif extrêmement fort avec la cause palestinienne, parfois des liens familiaux, et parce qu'il y a une histoire libano-israélienne qui fait qu'on peut considérer Israël comme le mal absolu, et d'autres qui, au contraire, en ont tellement marre des guerres, étaient tellement estimés que le comportement de Hezbollah était tellement insupportable qu'ils voyaient presque ce que fait Israël comme une opportunité historique pour le pays. Et il a fallu un peu réconcilier ces deux visions autour d'une idée qui, je pense, est celle que défend l'Orient le Jour, c'est-à-dire ne rien céder et en même temps avoir un discours très politique, un discours qui défend la justice, qui défend la justice des Palestiniens, qui défendait la justice des Syriens, attaquer Israël non pas en raison d'une mythologie ni religieuse, ni laïque, etc., mais en raison de ce qu'il fait, et défendre ce qu'aurait dû quelque part être le Liban, c'est-à-dire un espace d'ouverture, un espace d'altérité, un espace de compréhension de l'autre, un espace de nuance. C'est vraiment ce qu'aujourd'hui cherche à incarner l'Orient le Jour, et j'espère qu'en tant que lecteur, c'est ce que vous venez y chercher.
La nuance, presque la voix de la raison, ce que vous incarnez aussi, vous, Anthony Samarelli, comme co-rédacteur en chef de ce quotidien, mais aussi par votre personnalité, plutôt sur la réserve, et vous le racontez sur la réserve, je veux dire, dans le sens d'une... d'un certain retrait, probablement, que votre métier de journaliste vous oblige à avoir, vous accrocher aux faits, pas vous laisser déborder, gagner par vos émotions. Là, vous le racontez, même ça, ça vole en éclats face à ce qui est en train de se passer. Et c'est peut-être ce qui vous déroute ou semble vous sidérer le plus, c'est que vous-même, vous êtes tout à coup en prise avec toutes vos contradictions, ou avec en tout cas des apparentes contradictions de cette situation, et vous ne savez plus par quel bout prendre, comment gérer cette situation.
Oui, exactement. C'est, vous êtes chez vous, vous vous apprêtez à dormir, vos enfants sont dans la chambre, et là vous écoutez le bruit des drones au-dessus de votre tête, vous écoutez les bombardements, et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans votre tête, vous vous dites, mais je les hais, mais qui je hais ? Est-ce que c'est les Israéliens ? Est-ce que c'est le Hezbollah ? Est-ce que c'est tout ça ? Et la haine, où est-ce qu'elle va m'entraîner ? Ça fait des décennies qu'on est dans de la haine, dans de la surenchère, et ça nous a mené nulle part, à part dans le mur. Et en même temps, vous parliez de la voie de la raison, il y a des gens qui ont privilégié des options diplomatiques, qui ont privilégié un discours raisonnable, et ce discours, il a été complètement étouffé. Comment il peut exister aujourd'hui, ce discours ? Et on se dit quelque part, on est cerné par les monstres, et on veut tout faire pour ne pas leur ressembler.
Et qui sont ces monstres ?
C'est les acteurs dont je viens de parler, je pense, dans leur politique, Israël, le Hezbollah, l'Iran, le régime syrien, dans une moindre mesure, peut-être, les Occidentaux dans le rôle qu'ils ont pu jouer. Et au-delà des acteurs politiques, les monstres, c'est ces idées radicales, extrémistes, qui ont mis un feu dans la tête des gens, et qu'on a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de mal à éteindre. Il est très difficile d'avoir une conversation apaisée. De ce côté-ci de la Méditerranée, c'est évident, mais de l'autre, encore plus, sur ce type de questions. C'est-à-dire que, quelle que soit notre position, qu'on soit très anti-israélien ou non, qu'on soit partisan de Hezbollah ou non, on devrait pouvoir avoir cette discussion, on devrait pouvoir réfléchir en termes politiques, en termes stratégiques, on devrait pouvoir dire, très bien, on a cette première étape, elle nous conduit où ? Deuxième étape, troisième étape, on ne peut pas parce qu'il y a le poids du tabou qui est très fort et il y a les émotions qui prennent le pas sur tout le reste. C'est comme si c'était tellement identitaire pour nous, ces questions, que la réflexion, était avalée.
صخرات كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب كيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت مجد أطفأت مدينتي قنديلها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها وليلوت صخرة كأنها وجه بحار قديم. أزهرت جراح شعب أزهرت دمعة الأمات. أنت بيروت لي أنت لي
Après cette célèbre chanson de Fayrouz interprétée par Haber Nehm, nous reprenons l'entretien avec Anthony Samrani, co-rédacteur en chef du journal libanais francophone L'Orient le Jour, entretien avec la journaliste Olivia Jesber à l'Institut du Monde Arabe le 9 décembre 2024. Anthony Samrani parle de son livre « Vue du Liban, la fin d'un pays, la fin d'un monde ?» Point d'interrogation.
C'est étonnant parce que justement ce tract s'ouvre cet immeuble qui tremble, les cris que vous entendez au journal, et vous avez cette phrase qui m'a surprise, la deuxième phrase, troisième phrase du livre, « La guerre a débuté depuis près d'un an ». Mais c'était pas votre guerre à ce moment-là, quand elle dit.
On avait un rapport très complexe à cette guerre qui s'est déroulée du 7 octobre jusqu'à la mi-septembre. C'était à la fois très proche, on la couvrait tous les jours, on envoyait des journalistes au sud, on voyait les dégâts, et en même temps elle paraissait très loin, c'est-à-dire qu'on s'était habitué, en tout cas une partie des Libanais s'était habitué à l'idée que la moitié du pays, ou en tout cas un tiers, un quart du pays était en guerre, et que le reste du pays pouvait continuer sa vie comme si de rien n'était. Et on a tous cru à un moment à cette illusion que le Hezbollah contrôlait la situation, que ça n'irait pas plus loin, que les discours de Hassan Nasrallah, qui étaient plutôt rassurants, qui disaient « Non, il n'y aura pas de guerre totale, ne vous inquiétez pas, les Israéliens n'oseront pas », on y a cru. Si on n'y avait pas cru, on aurait peut-être quitté le Liban, on aurait peut-être agi différemment. Donc cette guerre, elle a été à la fois progressive et en même temps extrêmement brutale.
Mais il y avait quand même ce pressentiment qu'à un moment, cette guerre allait passer la frontière. Guerre Israël-Gaza n'allait pas s'arrêter là, puisque vous écrivez, tout l'immeuble a tremblé, j'entends des cris au journal, on se précipite vers le toit. De là-haut, on aperçoit une épaisse fumée qui se dégage au-dessus de la banlieue sud, située à seulement quelques kilomètres. La guerre a débuté depuis près d'un an.
Moi, j'en étais convaincu. J'étais convaincu depuis des mois que ça allait, que ça pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer parce qu'il y avait une forme d'absurdité dans la situation, c'est-à-dire on est en guerre mais on n'est pas complètement en guerre, on a ouvert un front de soutien à Gaza et en même temps ce front de soutien n'a pas épargné Gaza. Et quelque part, et dans un contexte régional qui est complètement en feu, on le voit encore aujourd'hui avec ce qui se passe en Syrie, le Hezbollah, je pense, et l'axe iranien de façon plus générale, n'a pas su lire la situation. Il n'a pas compris que pour les Israéliens, il y avait vraiment un avant et un après 7 octobre. Que les Israéliens étaient prêts à sacrifier leurs otages, que les Israéliens étaient prêts à tout désormais pour éliminer ce qui, à leurs yeux, est une menace existentielle. On va commémorer, en avril prochain, les 50 ans du début de la guerre civile libanaise. On a toute une génération, et peut-être que certains dans la salle en font partie, qui n'ont connu que la guerre au Liban. Que la guerre. Et comment vous faites, quand vous n'avez connu que la guerre, pour continuer de s'auto-convaincre que la raison, la modération est la seule façon de défendre vos positions, en tout cas est la meilleure façon de les défendre.
Vous racontez aussi quand les beepers explosent, quand Hassan Nasrallah est mort, ce fameux point de bascule, que ce jour-là, tout à coup, vous voyez tous les scénarios se rouvrir, et surtout les pires. L'occupation israélienne, l'hypothèse d'une guerre sans fin, et le pire serait, celui que vous mettez en avant, la guerre civile. Que le Liban devienne aussi Gaza, devienne la Syrie, devienne l'Irak. Ça, c'est les scénarios du pire que vous envisagez à ce moment-là. Est-ce qu'ils se sont pour l'instant éloignés ou est-ce qu'ils restent quelque part très présents dans un coin de votre tête?
Les deux. C'est-à-dire qu'ils ont quelque part eu lieu tous. Il y a une partie du Liban qui ressemble à Gaza. Il y a des villages entiers qui ont été rasés. Il y a des bombardements qui ont fait énormément de dégâts. Il y a une forme de syrianisation du Liban, c'est-à-dire que Israël peut intervenir militairement à sa guise quand il le souhaite. La guerre s'est terminée sans jamais se terminer. Les zones sont détruites, elles ne seront peut-être jamais reconstruites. Il y a aussi la crainte de ce que j'appelle le scénario irakien, mais ça peut être aussi un scénario libanais, que l'affaiblissement de Hezbollah soit perçu comme une opportunité par les autres partis, que lui-même ne veuille pas remettre ses armes, et donc que ça crée avec le temps des tensions extrêmement fortes qui aboutissent à un moment donné à la guerre civile. Je pense que le scénario de la guerre civile aujourd'hui n'est pas réaliste, premièrement parce que personne ne la veut, deuxièmement parce que personne n'est véritablement armé, à part le Hezbollah, même si tout le monde possède des armes légères au Liban. Mais l'histoire peut aller très vite. Encore une fois, ce qui se passe en Syrie en ce moment nous le montre.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ce sous-titre, la fin d'un pays, la fin d'un monde, point d'interrogation? Qu'est-ce qu'il y a comme questionnement, comme peur, comme incertitude massive?
Il y a trois choses. La fin d'un monde, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je crois que c'est la fin de ce à quoi des gens comme moi probablement beaucoup d'autres s'accrochaient, c'est-à-dire cette illusion d'un ordre libéral fondé sur le droit international, fondé sur la justice. Il y a la fin d'un pays parce que le Liban se délite, parce qu'il se transforme, parce qu'il n'est plus le même, parce qu'il est en train de perdre ce qui fait sa sève. Récemment, Emmanuel Macron a dit « le Liban est un pays plus grand que lui-même ». Parfois, il a l'air plus petit que lui-même. Et la troisième chose, c'est que je crois que ce n'est pas une coïncidence si le crépuscule libanais s'accompagne d'élitement de l'ordre international. Je crois que le Liban est le miroir de notre monde et de notre époque.
Il y a une chose qu'on comprend bien dans ce tract, et dont vous semblez être sûr, une certitude, c'est que la haine n'est pas la solution.
Non. Et regardez ce qu'a été le 7 octobre. Moi, j'en ai beaucoup voulu à des gens, y compris des proches, qui ont célébré le 7 octobre, qui ont célébré, non pas l'horreur, mais qui ont célébré le fait que, enfin, l'impunité israélienne pouvait être contestée. Mais le 7 octobre, il a mené à quoi? Il a mené à cette horreur, déjà, à cette ignominie, mais il a mené à l'anéantissement de l'enclave palestinienne. Il a mené à quelque chose de terrible. Et pourquoi? Et au fond, on se gargarise de « on a gagné et on va venir à bout d'Israël ». Et là encore, après tout ce que le Liban a vécu, après les claques qu'on a reçues, on entend encore les partisans du Hezbollah célébrer la victoire divine et nous promettre qu'Israël va bientôt disparaître. Quand est-ce qu'on va comprendre que cette surenchère morbide, elle ne nous mènera nulle part? Et en même temps, et je pense que c'est très important de le dire, le comportement israélien depuis des décennies alimente, nourrit cette surenchère. Parce que des gens qui sont peut-être plus modérés, Israël ne les respecte pas, et sont quelque part amenés à se dire la seule voie, c'est cette voie-là.
L'accord de cessez-le-feu qui vient d'être signé signifie-t-il à vos yeux la fin de la guerre ?
Non, malheureusement, pas vraiment. On a vraiment l'impression que l'histoire se répète, qu'on est condamné à vivre encore et encore la même histoire au Liban. Hier, j'avais un sentiment de soulagement parce que la guerre est potentiellement terminée, parce que les gens qui le peuvent, dont la maison n'a pas été détruite, sont rentrés chez eux, parce que la vie a repris son cours. Et en même temps, j'étais très triste et même énervé parce que j'entendais partout dans le pays des partisans du Hezbollah en train de célébrer la victoire. Et on va fêter dans quelques mois les 50 ans du début de la guerre civile libanaise.
Oui.
Et finalement, on n'en est jamais sorti de cette guerre.
C'est la chute de votre petit texte qui est très court, très percutant et assez désespéré. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire fini ? Ça ne finira jamais.
J'ai ce sentiment, effectivement, que à la fois au Liban aujourd'hui, mais à l'échelle de toute la région, on est dans un cycle de violence interminable où des générations entières ont été traumatisées, où la violence alimente la violence, et où il n'y a aucun signe d'espoir, à part peut-être ce qu'ont été à un moment donné les printemps arabes et le soulèvement au Liban, pour justement casser ce cycle, pour en sortir.
Oui. Cette guerre, je rappelle que vous avez 34 ans aussi, hein. C'est votre génération qui s'exprime là à notre micro ce matin. Cette guerre, écrivez-vous, Anthony Samrani, déchire les Libanais entre eux et à l'intérieur d'eux-mêmes. Elle nous met face à un choix impossible. Le choix entre quoi et quoi ?
C'était extrêmement difficile à vivre. D'abord, le 7 octobre a été très compliqué à vivre. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on voulait soutenir, enfin de nombreux Libanais en tout cas voulaient soutenir corps et âme la cause palestinienne, et en même temps ne pas faire le jeu du Hamas, et en même temps ne pas faire en sorte que le Liban plonge dans la guerre lui aussi. Et ces derniers mois l'ont été encore plus, parce que d'un côté on a une milice qui est aussi un parti, qui représente une partie des Libanais, qui a fait énormément de mal au Liban, qui a fini par dévorer le Liban de l'intérieur. Et de l'autre côté, ça c'est le Hezbollah.
Armé par l'Iran,
armé et financé par l'Iran. Et de l'autre côté, on a un État avec lequel on a des relations extrêmement compliquées, dont la création a été un choc pour l'ensemble du monde arabe.
C'est Israël qui,
après le massacre du 7 octobre, a fait des milliers de massacres à Gaza, qui a détruit habitation par habitation, quartier par quartier, rue par rue, ville par ville. Et on se retrouve au milieu de ces deux monstres, si je peux me permettre, et complètement coincé. Et cette équation, elle était impossible à tenir en temps de guerre, c'est-à-dire ne rien céder ni au Hezbollah, ni à Israël, parce que c'est le Liban qui
était bombardé. C'est-à-dire le Hezbollah vous contraint à subir la guerre et Israël vous fait la guerre.
Tout à fait.
Et non seulement c'est un étau géographique, c'est un étau physique pour les Libanais qui se retrouvent entre ces deux feux, mais ce que vous racontez très bien dans cette souffrance des Libanais, c'est que c'est aussi un étau mental.
C'est à mon avis le plus important. Et c'est, je pense, le principal effet de cette guerre, non seulement au Liban, non seulement dans la région, mais dans le monde entier. Cette guerre a radicalisé les esprits à un point à partir duquel il va être très 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 difficile de les apaiser désormais et de les modérer.
Le Hezbollah n'a pas défendu le pays, mais l'a mis en danger. Vous venez de nous l'expliquer, Anthony Samrani. Et pourtant, vous le dites, lorsque Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, meurt sous les bombes israéliennes, vous écrivez « Un monde vient de s'effondrer sous nos yeux ». C'est le titre de ce tract, « Vu du Liban, la fin d'un pays, la fin d'un monde ». Quel monde s'effondre avec la fin de Hassan Nasrallah ?
Hassan Nasrallah, il était, pour certains Libanais, c'était un dieu vivant, mais pour tous les Libanais, c'était le personnage le plus important de la vie politique. Il suffisait qu'il dise quelques mots, il suffisait qu'il lève son index pour que tout le pays craigne une guerre civile imminente. Donc tout ça, c'est cette peur quelque part qui s'est écroulée, c'est ce mythe de l'invincibilité, c'est aussi cette idée que finalement tout était fermé. Aujourd'hui, le champ des possibles est ouvert. Il est possible que cette crise aboutisse à quelque chose de positif pour le Liban.
De positif ? Vous dites que le Liban n'est plus un acteur, le Liban est devenu un terrain de jeu. Un terrain de jeu pour Israël, un terrain de jeu pour l'Iran, un terrain de jeu pour les Américains et nous.
Mais il est
et
aussi,
nous les Libanais.
Mais il est aussi malheureusement très probable, il y a 9 chances sur 10 à mon avis, que ça aboutisse à un scénario qui est pire que l'état dans lequel on était au début de la guerre. C'est-à-dire un déchirement interne dans un contexte où toute la région est en lambeaux, dans un contexte où le monde est cassé. Le fait que la fin du Liban coïncide avec la fin du monde n'est justement, à mon avis, pas une coïncidence. Le Liban est un miroir grossissant de ce qui se passe dans le monde et c'est en même temps un pays très perméable à tout ce qui s'y passe.
Vous le dites, hein, vous dites le monde arabe est mort. D'ailleurs, c'est un passage très fort hein, de votre petit texte. Le monde arabe est mort. Que reste-t-il de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, de l'Égypte, de la Tunisie qui est en train de s'enfoncer dans l'autoritarisme, du Yémen, du Soudan qui est en guerre. Le monde arabe est mort. Mais là, vous dites la fin du Liban. Anthony Samrani, vous dites la fin du Liban.
Je ne sais pas si c'est la fin du Liban, mais il y a une idée libanaise à laquelle je suis très attaché. Une idée qui fait justement du Liban quelque chose de plus qu'un pays. Quelque chose, c'est une utopie, c'est un message, c'est une façon de voir le monde, c'est une acceptation de l'autre, c'est une ouverture d'esprit. Et cette idée-là...
C'est un remède.
C'est un remède, à mon sens, oui. Et cette idée-là, je crois effectivement qu'elle est en train de mourir. Est-ce que cette mort est définitive? Est-ce qu'on peut espérer un retour? Si on le souhaite, il va falloir très vite bouger, il va falloir se mobiliser.
Vous le savez, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, contre son ancien ministre de la Défense. Et la France, hier, s'est singularisée en expliquant que Benjamin Netanyahou continuerait de bénéficier d'une immunité. Comment vous réagissez ?
Alors, il y a d'abord ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est que Israël a tenté d'écarter au bout d'un moment la France de la solution libanaise, que ça a coïncidé avec la décision de la Cour internationale, de la Cour pénale internationale, qu'ensuite la France a été réintégrée et que la position française par rapport au mandat d'arrêt a évolué. Est-ce que cela signifie qu'il y a eu des négociations sur ce sujet ? A priori, et si c'est le cas, c'est un scandale. On se rend pas assez compte ici en France, à mon avis, à quel point la guerre de Gaza a miné le système international qui a été pourtant créé par les pays occidentaux, c'est-à-dire l'utopie d'un ordre libéral qui était l'utopie auquel adhéraient la majorité des pays occidentaux et peut-être même le reste du monde après la chute du mur. Aujourd'hui, elle est complètement brisée. Aujourd'hui, plus personne n'y croit. Parce que
c'est la défaite de l'Occident.
C'est la défaite de l'Occident. Et c'est une défaite qui est liée au fait que il y a un acteur dans cette région qui agit en toute impunité en raison de la puissance de la mémoire qui est une mémoire occidentale, la puissance de la mémoire de l'Holocauste, et en même temps en raison de choix stratégiques qui sont inexplicables aux yeux des habitants de la région. C'est-à-dire que soit on décide de vivre dans un monde cynique où c'est le règne du plus fort, où c'est toujours le plus fort qui l'emporte, et tout le monde en assume les conséquences, soit on veut construire un ordre avec des règles, et dans ce cas-là, tout le monde doit respecter les mêmes règles.
Et c'est la dernière cause, la cause palestinienne, qui unit, expliquez-vous Anthony Samrani, le monde arabe. Ce monde arabe disloqué en souffrance, il n'y a plus que la cause palestinienne qui soit encore un cœur qui batte.
Oui, elle l'unit parce que cette cause a une puissance symbolique sans équivalent, parce que quelque part, toutes les injustices que ressentent au quotidien les Arabes, le seul espace qu'ils ont pour l'exprimer, c'est quand il s'agit de la cause palestinienne, parce qu'Israël est encore perçu comme une greffe étrangère, et aussi parce qu'il est beaucoup plus facile de soutenir la cause palestinienne que de soutenir, par exemple, la cause syrienne. C'est quelque chose qui est à la fois très profond, mais qui aussi démontre une forme de superficialité, à mon avis, aujourd'hui dans la région.
يا ليل نسرع ونبني Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre, Israël a mené des dizaines d'attaques quotidiennes sur le territoire libanais, en plus des survols aériens, notamment de drones, au-dessus de Beyrouth. Ce lundi, pour la première fois, le Hezbollah a également revendiqué des frappes au niveau des collines contestées de Fachouba. Si le territoire visé est symbolique, n'étant pas habité, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de répondre avec force à toute attaque en provenance du territoire libanais. De quoi remettre en question ce cessez-le-feu qui semble plus que jamais fragile. Pour l'heure, l'armée israélienne est toujours présente dans certaines zones du Liban Sud où l'armée libanaise ne s'est pas encore déployée. Israël menace même de ne plus faire de distinction entre le Hezbollah et l'État libanais si la guerre devait reprendre. La France et les États-Unis, garants de ce cessez-le-feu, ont appelé à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Je vous rappelle que nous écoutons dans cette émission Anthony Samrani. Anthony Samrani est co-rédacteur en chef du journal libanais L'Orient le Jour et il est également l'auteur du livre Vue du Liban, la fin d'un pays, la fin d'un monde, point d'interrogation. Il a été interrogé, vous l'avez entendu, par Olivia Jesber à l'Institut du Monde Arabe. Mais nous allons l'entendre maintenant, le 5 décembre 2024, dans l'émission 28 minutes de la chaîne Arte. La journaliste Elisabeth Quin lui a posé la question que tout le monde attend après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le Hezbollah, annonce qui a été faite le 27 novembre 2024.
Le cessez-le-feu entre le Hezbollah et l'armée israélienne, il peut être durable ?
Ça va être très compliqué. Et en admettant même qu'il le soit, Israël continue à frapper parce qu'il considère que le Liban est la nouvelle Syrie, donc il peut y faire ce qu'il souhaite. Et au nord du Litanie, le Hezbollah a toujours ses armes.
Dans Vue du Liban, donc ce tract, Anthony Semrani, vous dénoncez l'innommable, ce sont vos mots, le massacre, la razzia perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, et aussi la réplique israélienne, et vous écrivez « Cette guerre contre Gaza donc, a eu un seul mérite, celui de signer la fin des illusions ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
On a vécu, je pense, en particulier de ce côté-ci de la Méditerranée, beaucoup d'illusions sur le conflit israélo-palestinien.
Ce côté-ci, c'est ici ?
Le côté français, oui, effectivement. C'est-à-dire l'idée que ce conflit était terminé, il n'était plus important, que c'était une question simplement sécuritaire. Et enfin, l'illusion que le système international pouvait être protégé, bien qu'un État, qui est un État allié des pays occidentaux, bénéficie d'une impunité totale dans ses modalités d'action et d'engagement militaire.
Cet État, c'est Israël, un État légitime, hein, par ailleurs, évidemment.
Oui, mais ce n'est pas la question. La question aujourd'hui n'est pas celle de sa légitimité. Moi, je ne suis pas en train de remettre en question l'existence d'Israël. Je suis en train de dire, si vous voulez que le système international fonctionne, les mêmes règles doivent s'appliquer à tous, et l'exceptionnalisme israélien ne peut pas être justifié. Et aujourd'hui, on a un double exceptionnalisme israélien. On a un exceptionnalisme dans le monde arabe où, quand un arabe tue un autre arabe, c'est moins grave que quand un israélien tue un autre arabe, ce qui est, à mon avis, terrible. Et on a un exceptionnalisme, en tout cas, on a ce sentiment que de ce côté-ci de la Méditerranée, quand un israélien tue un arabe, c'est moins grave que quand un arabe tue un arabe. Et ça aussi, ce n'est pas acceptable.
Mais vu d'ici aussi, on s'est posé une question. Est-ce que la guerre menée par Israël ne peut pas aider la guerre menée par Israël contre le Hezbollah ne peut pas aider le Liban à s'expurger définitivement de cette organisation terroriste et l'aider à se reconstruire?
On ne peut pas demander à un acteur avec qui on a des relations tellement complexes, tellement difficiles, qui est en train de faire ce qu'il a fait depuis des mois à Gaza, qui, pour casser le Hezbollah, a tué des journalistes, a tué des ambulanciers, a rasé des villages entiers au Liban, on ne peut pas se dire « oui, c'est comme ça qu'on va réussir à refonder notre pays, à réparer notre pays ». Vous imaginez la radicalisation au sein, non seulement des partisans du Hezbollah, mais de l'ensemble des Libanais.
Moi, je
le vois quand j'écoute la nuit, je suis chez moi, j'ai mes filles à la maison, j'entends les bombardements, j'entends les drones au-dessus de ma tête, et je pense être quelqu'un de modéré. Mais ça radicalise.
Mais qui subissent aussi l'emprise du Hezbollah.
Mais bien sûr. On ne souhaite pas, en tout cas, je parle en mon nom, je sais ce qu'est le Hezbollah, je n'ai aucune espèce de sympathie pour ce parti, je sais ce qu'il a fait au Liban, je sais qu'il est en train de dévorer le Liban, mais la solution ne peut venir d'une opération militaire qui fait au moins autant de mal au Liban qu'au parti en question.
Vous évoquez au-delà donc de cette opération militaire de Tsahal, de l'armée israélienne contre le Hezbollah dans le sud Liban, vous évoquez avec des mots profondément pessimistes une solution politique pour régler le conflit israélo-palestinien. Vous dites Oslo est mort, la solution à deux États est morte, la solution à un État binational est encore une utopie, plus utopique que la solution à deux États. On en est là ?
On en est malheureusement là, mais ce chemin il existe. Alors il est
la solution politique ?
Il est extrêmement étroit, mais et Israël et l'Iran nous font croire depuis des années, d'une part, que la question iranienne et la question palestinienne est la même, ce qui n'est pas vrai, et d'autre part, qu'il n'y a pas d'autre solution que le terrain militaire, ce qui n'est pas vrai non plus. Israël pourrait, dès demain, accepter la création d'un État palestinien, pourrait se réconcilier avec une grande partie des pays arabes, l'Arabie saoudite ne demande que cela, et ensuite, s'il continue d'être attaqué en tant qu'État dans sa légitimité, par des groupes radicaux, mais il aura une légitimité politique pour y répondre. Mais aujourd'hui, il y répond sans même donner aux Palestiniens le minimum de dignité pour obtenir un
possible, État. Oui. On va évoquer avec vous, Anthony Semrani, et avec Anna, le Liban et des sites culturels emblématiques que vous aimez, évidemment, passionnément, et qui sont en danger à cause des bombardements israéliens, Baalbek et d'autres.
Oui, regardez, vous allez certainement reconnaître le site antique de Baalbek, qui est classé au patrimoine mondiale de l'UNESCO avec ses ruines gréco-romaines, son temple de Jupiter. Eh bien, le mois dernier, une frappe israélienne est tombée juste à côté, tout proche, dans le parking, justement. Et le gouverneur de la région a immédiatement alerté sur les effets néfastes, les conséquences de ces bombardements. Même inquiétude pour les cités antiques de Tyr et d'Anjar, si bien que l'UNESCO a placé 34 sites culturels libanais sous protection renforcée provisoire. C'est le plus haut niveau d'immunité en temps de guerre. Et cette décision, elle fait suite à une demande d'une centaine de députés libanais de tous bords. Alors Anthony Samrani, est-ce que la culture, finalement, ce n'est pas le socle commun qui peut encore rassembler les Libanais?
C'est effectivement peut-être ce qui peut nous sauver au-delà de la question libanaise, à l'échelle régionale. Mais il faut bien comprendre que ce qui s'est passé depuis 10 ans, 15 ans dans la région, avec la disparition d'Alep, la disparition de Mossoul, de Raqqa, de Raqqa, aujourd'hui, l'histoire a été pulvérisée dans la région. L'histoire a été pulvérisée avec une force. Et il va falloir reconstruire. Et cette reconstruction, elle ne peut être que lente, elle ne peut être que progressive. Et elle doit être nécessairement, j'insiste là-dessus, politique. La culture va jouer un rôle majeur, mais la solution ne viendra que du politique.
Et de la volonté politique. La une de L'Orient le Jour, dont vous êtes co-rédacteur en chef aujourd'hui, évoque l'avancée des rebelles de cette coalition en Syrie entre des terroristes, enfin des salafistes, anciennement d'Al-Qaïda, et l'armée syrienne libre, qui ont pris Alep et qui sont en train d'attaquer la deuxième ville de Syrie. Ça peut déboucher sur une guerre régionale.
Ça peut
C'est craint au Liban, ça? Un embrasement à nouveau.
Il y a une crainte au Liban d'une radicalisation d'une partie de la communauté sunnite qui a des liens très proches avec la Syrie. Mais ça peut déboucher surtout sur un affaiblissement de l'axe iranien dans la région, parce que les rebelles aujourd'hui profitent du fait que les Iraniens...
Que le Hezbollah soit affaibli.
Bien sûr, et que les Russes aient la tête en Ukraine. Et ça peut conduire à remettre sur la table la question de la survie du régime syrien.
Une dernière question pour vous. Emmanuel Macron s'était rendu au Liban en 2020 après l'explosion au port de Beyrouth. Il s'était posé un peu comme un faiseur de paix. Il avait tensé d'ailleurs le personnel politique. Qu'est-ce qu'on pense de lui au Liban?
Pas beaucoup de bien.
Ah oui?
Pas beaucoup de bien parce que l'initiative française a été un échec total sur toute la ligne. Si je peux me permettre tout de même d'apporter une nuance, personne n'aurait fait mieux.
La dernière fois qu'on s'est parlé, Anthony Samrani, c'était il y a quelques semaines, il y a un mois. Vous disiez à l'époque vos doutes, votre crainte de voir la société libanaise se fracturer à cause notamment des mouvements de réfugiés, habiter une société qu'on le sait par les ombres et les démons qu'on lui connaît. Elle a tenu quand même jusque-là cette société.
Là aussi, c'est tout le paradoxe. Le Liban, c'est un pays en morceaux. C'est un pays qui est toujours au bord de l'implosion, mais qui n'implose pas. Et on pourrait se dire, ah, c'est génial, c'est un miracle libanais. Oui, un miracle libanais. Oui, le fait que plus d'un million de réfugiés, en majorité chiites, aient pu être accueillis malgré les tensions dans les autres régions du pays, c'est une forme de miracle. Mais en même temps, le pays se délite, il se transforme, il est en train de devenir autre chose. Et cette autre chose, au bout d'un moment, ça va créer d'énormes tensions. On ne pourra pas y échapper, malheureusement. Quelles formes vont prendre ces tensions? Est-ce qu'on va aller jusque vers des heurts ou vers des formes encore plus graves, comme la guerre civile? Ça, c'est des questions qui restent en suspens aujourd'hui. Mais dès qu'on gratte un peu, oui, il y a des ombres très présentes au sein de la société libanaise.
Divisé pour mieux régner, Anthony Samrani?
Oui, je pense que ça fait partie du pari israélien qui repose effectivement sur une réalité, c'est que le Hezbollah a une assise assez forte au sein de la communauté chiite et l'avenir du Liban va en grande partie dépendre de à quel point cette communauté va être capable ou susceptible de s'en détacher. Et de l'autre côté, il y a toute une partie du pays qui voit le parti pro-iranien avec une très grande méfiance, une très grande hostilité, et qui craint plus que tout que la guerre s'arrête, qu'il y ait une forme de règlement dans le sud, mais que le Hezbollah reste armé et qu'il se retourne à l'intérieur contre les autres partis. Que veut Israël dans ce cas de figure? Ce n'est pas arrêter la guerre, c'est syrianiser le Liban. C'est pouvoir intervenir quand il le souhaite face au Hezbollah ou à ses alliés, non seulement au Liban, mais aussi à la frontière libano-syrienne. Mais un accord au Liban, à mon avis, ne signifierait pas, un, la fin de la guerre, deux, le désarmement du Hezbollah, trois, la reconstruction du Sud. Donc ces trois éléments quand même fondamentaux.
on entrerait dans une nouvelle phase, probablement moins intense, mais ça ne serait pas terminé pour autant.
Moi, j'ai beaucoup écouté cette année que le conflit de Gaza reflétait quelque part l'impuissance américaine et il y a des raisons électorales, etc., qui expliqueraient le comportement de l'administration Biden. Je pense que c'est une mauvaise lecture. Je pense que c'est un choix qui a été fait par Biden dès le premier jour, un choix de cœur. Lui-même est très attaché à Israël, il ne l'a jamais caché. Il est peut-être parfois embêté par ce que fait Netanyahou et il aimerait qu'il le cache un peu plus. Mais c'est un choix et c'est un choix stratégique. Les Américains, quelque part, sont très contents de l'affaiblissement de l'axe iranien dans la région et ils considèrent que la destruction systématique de l'enclave palestinienne est finalement un prix à payer assez modeste par rapport à l'objectif vu dans sa globalité. Et je pense qu'on n'arrive toujours pas à voir Israël pour ce qu'il est et pas pour ce que les Occidentaux voudraient qu'il soit. C'est un État aujourd'hui qui est gouverné par des gens qui ont des projets fondamentalistes dans tous les sens du terme et qui sont prêts à recoloniser Gaza, qui sont prêts à annexer la Cisjordanie. Vous avez un ancien conseiller de Netanyahou qui a écrit une tribune il y a quelques jours pour expliquer que le Liban Sud faisait partie également du Grand Israël. Et on l'a tous les jours sous les yeux, mais on ne veut pas le voir. Se demande, est-ce que le Liban peut se reconstruire ? Est-ce qu'il peut renaître après avoir vécu tout ça ?
Ça veut dire que ce miracle libanais dont on parle beaucoup, peut-être parfois qui vous agace quand on parle de la résilience des Libanais, vous pouvez le dire, mais je sais que parfois ça peut-être sonner comme un petit peu trop galvaudé, mais qu'est-ce qui reste de ce miracle libanais, de cette possibilité des Libanais d'avoir fait nation jusqu'à présent ?
Il reste à la fois beaucoup, Et il faut pas sous-estimer ça. C'est-à-dire que si on m'avait dit il y a quelques mois que plus d'un million de déplacés chiites seraient accueillis partout au Liban, avec des tensions, avec des heurts, mais tout de même accueillis, je n'y aurais pas cru. On est toujours surpris par le Liban. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je vis au Liban, que je parle un peu à tout le monde. Je suis toujours surpris. Donc, il existe ce miracle libanais. Mais attention, parce qu'il est en train de se déliter, il est en train de disparaître, le pays est en train de se transformer. Et si, à un moment donné, on n'est pas capable de tous tirer dans le même sens pour le sauver, on va le perdre.
Et il faut que ce cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre dernier tienne. Il semble plus fragile que jamais, ce qu'à vos yeux, d'ailleurs, il tient toujours.
Alors déjà, je dirais que l'accord n'est pas un bon accord pour le Liban. Pourquoi ce n'est pas un bon accord pour le Liban ? Parce que Israël, si je caricature un peu, Israël fait ce qu'il veut au Liban Sud, donc continue de frapper. C'est une forme de syrianisation du Liban. Et au nord du Litani, le Hezbollah possède encore ses armes. Donc on a un peu perdu sur les deux fronts. Ça, c'est s'il tient. Et il y a effectivement la possibilité qu'il ne tienne pas, avec une nouvelle offensive israélienne, avec une volonté israélienne, Netanyahou l'a dit, de s'en prendre directement à l'Iran. Est-ce que ça ne va pas passer au bout d'un moment par le Liban ? Et enfin, troisième équation, pardon, l'équation syrienne. Est-ce que le Liban va être entraîné dans ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ?
Anthony Samrani, rédacteur en chef au journal L'Orient le Jour, a raison de se poser la question au sujet de la situation chaotique en Syrie. En effet, le 8 décembre 2024, les rebelles au régime de Bachar el-Assad arrivent à Damas. Le dictateur s'est enfui. Le leader des rebelles, Ahmed al-Shara, prend le pouvoir. Les Syriens font alors leur libération. Et le 14 décembre, Damas, libéré de la tyrannie des Assad, célèbre, entre guillemets, le vendredi de la victoire. Mais ceci n'empêche pas l'armée israélienne d'intensifier ses bombardements sur la Syrie.
Sous les flammes et les explosions se trouvait un stock d'armes stratégiques de l'armée syrienne situé à Tartous. Deux jours avant, les habitants de Damas ont pu apercevoir vers le nord cette autre lueur, suivie d'une puissante détonation. Voici le résultat sur place. Il y avait là une base de l'armée syrienne. Il ne reste plus rien. À Tartous, comme ici à Damas, les bombardements proviennent de l'armée israélienne. Des frappes concentrées sur les bases syriennes situées près de la frontière avec Israël ou le Liban, mais aussi plus au nord, dans le territoire et le long de la Méditerranée. Des offensives qui ont également touché Palmyre, ou plus loin encore, des Rezors. Ici, c'est une rampe de lancement de missiles sol-air pour la défense antiaérienne. Là, une autre base aérienne où chaque engin volant a été méthodiquement détruit, l'un après l'autre. Les bases navales ont également été touchées. Bon nombre de bateaux amarrés, comme ici dans le port de Latakia, ont été envoyés par le fond. L'opération militaire nommée Bashan Arrow est l'une des plus importantes attaques de l'histoire de l'aviation israélienne. Au total, 80% des installations de l'armée syrienne auraient été détruites. La quasi-totalité des projectiles sont désormais inopérants. Israël, pour ses missions sur la Syrie, a employé 350 aéronefs, soit l'équivalent de l'ensemble de la flotte de l'armée française. Une série d'attaques préventives.
Nos actions en Syrie visent principalement à s'assurer que les organisations terroristes n'ont pas accès à des armes hautement sophistiquées, à des missiles balistiques, ainsi qu'à des armes chimiques.
Malgré cette opération impressionnante, Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il ne voulait pas d'un conflit avec la Syrie, mais qu'il définira sa politique en fonction de la réalité sur le terrain. Une partie de ce terrain sur lequel Israël a déjà pris ses marques. L'armée israélienne dans le Golan, il y a une semaine, a franchi la frontière et des troupes sont à présent installées dans la zone tampon avec la Syrie.
L'intégrité territoriale syrienne est-elle menacée ? Benjamin Netanyahou s'est rendu hier au sommet du mont Hermon, Jabal Asher, aux confins du Golan annexé par Israël. Écoutez le Premier ministre israélien.
Cela me rappelle des souvenirs. J'étais ici il y a 53 ans avec mes soldats de l'unité d'élite Sayeret Matkal. L'endroit n'a pas changé, c'est le même endroit. Mais son importance pour la sécurité d'Israël n'a fait que croître ces dernières années. Et surtout ces dernières semaines avec les événements dramatiques qui se déroulent ici, en dessous de nous, en Syrie. Nous déterminerons le meilleur arrangement pour garantir notre sécurité.
Et notre éditorialiste Slimane Zeghidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane.
Bonsoir.
Benjamin Netanyahou avance l'argument sécuritaire. Israël profite de la chute de Bachar al-Assad pour avancer ses pions.
Écoutez, pour la première fois depuis 50 ans, quand il y a eu les accords de désengagement entre la Syrie et Israël à propos du Golan, Israël conservait le plateau du Golan et il y avait une zone tampon qu'on peut voir sur la carte séparant le territoire proprement syrien du Golan occupé. Eh bien, depuis la prise de Damas par les rebelles, l'armée israélienne est entrée dans la zone tampon qui est jusqu'ici contrôlée par l'ONU, ce qui est donc une violation du droit international. Mais plus que ça, pour la première fois depuis 50 ans, l'armée israélienne est entrée dans le territoire syrien et Benjamin Netanyahu était en train de parler tout à l'heure sur le versant syrien du Jebel Esher ou le mont Hermon.
Et le Golan, une région stratégique ?
Alors, c'est une région stratégique, évidemment, parce que comme Benjamin Netanyahu, là où il était à 2800 mètres, pouvait voir à l'œil nu Damas. Donc c'est un plateau extrêmement fertile, dominé par cette montagne qui donc on peut, Israël a déjà installé dans la partie occupée des stations d'écoute électronique qui balayent tout le Moyen-Orient jusqu'au Caucase. Mais c'est aussi le Golan, c'est le château d'eau du Moyen-Orient. 30% de l'eau qui alimente le lac Tibériade, qui est en Israël, viennent des sources qui coulent depuis le Golan. Voilà pourquoi aujourd'hui le Golan est peuplé de 25 000 druzes syriens et de 25 000 Israéliens, 35 000 Israéliens qui sont des colons. Mais pour l'ONU, ce territoire reste encore un territoire syrien occupé, même si Israël l'a annexé et le considère comme israélien. Et
des centaines de frappes menées sur des sites militaires de l'ancien régime de Bachar al-Assad. Officiellement, il s'agit pour Israël d'empêcher que ces sites stratégiques ne tombent aux mains d'éléments terroristes. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Juan et bonjour Fidel.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Jérusalem. D'abord, Michel, expliquez-nous quelle est la situation à la frontière entre Israël et la Syrie.
Oui, il faut peut-être d'abord replacer les choses dans leur contexte géographique ou disons plutôt géostratégique. La distance entre l'actuelle frontière entre Israël et la Syrie et la capitale syrienne est de moins de 60 kilomètres. Israël a annexé de fait une partie du plateau du Golan en 1981, une annexion que la communauté internationale rejette, à l'exception notamment des États-Unis depuis 2019. Le secteur est régi par un accord de séparation des forces et une zone tampon depuis 1974, un an donc après la guerre du Kippour. Les soldats syriens ont abandonné en début de semaine leur position avec la chute du régime al-Assad. L'armée israélienne est entrée sur le territoire syrien sans faire usage de force. Et à ce stade, elle occupe la zone tampon et aussi des positions qualifiées de stratégiques du côté syrien jusqu'à environ 30 km de Damas. Des chars israéliens ont même été aperçus à une vingtaine de kilomètres de la capitale syrienne. Alors en Israël, on souligne qu'il s'agit de mesures temporaires.
Alors l'armée israélienne a dit avoir mené des centaines de frappes depuis le début de la semaine dans plusieurs villes de Syrie. La question de Fidel, elle est pertinente. Est-ce que ces bombardements ne risquent pas d'alimenter encore un peu plus les tensions entre les deux pays ?
Oui, ce sont près de 400 frappes en 48 heures selon l'armée israélienne, qui affirme aussi que 80% de l'armée syrienne a été détruite, et cela en coordination avec les États-Unis, souligne-t-on ici. Alors ce qui a été visé, ce sont des sites stratégiques, toujours selon les militaires israéliens, des ports, des aérodromes militaires. Israël affirme avoir neutralisé notamment des missiles Scud, des missiles de croisière et autres, des drones, des avions de chasse, des hélicoptères d'attaque, des radars, des chars, des hangars et aussi des quantités importantes d'armes chimiques. Il faut rappeler qu'avant la chute du régime syrien, Israël attaquait régulièrement en Syrie, principalement des installations iraniennes et des convois d'armement destinés au Hezbollah. Et l'opposition syrienne applaudissait des deux mains et encourageait même Israël à aller plus loin. Alors on peut remarquer que les condamnations d'Israël pour ses frappes de ces derniers jours et son incursion proviennent surtout de l'étranger, de la France notamment, et beaucoup moins de Syrie elle-même.
Oui, parmi les condamnations, signalons celle de l'ONU qui demande l'arrêt des frappes israéliennes. Elles sont contraires au droit international, ont déclaré les experts de l'ONU. À quoi peuvent ressembler les futures relations entre Israël et les nouveaux hommes forts de Syrie, Michel Paul ?
Eh bien écoutez, Fidel et Juan, c'est une excellente question, effectivement, parce que la réponse est que tout est possible. On sait qu'Israël a entretenu ces dernières années des relations avec certains groupes de rebelles, notamment avec les Kurdes, et la communauté druze en Israël est particulièrement sur le plateau du Golan, entretient des rapports avec les Druzes syriens. Il y a aussi de bonnes relations avec les chrétiens en Syrie. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui est occupé en ce moment par son procès, a trouvé le temps de dire qu'il tendait la main de la paix à ceux en Syrie qui souhaitaient vivre aux côtés d'Israël de manière pacifique. Il y a aussi des déclarations plus menaçantes. « Ceux qui suivront la voie d'Assad finiront comme lui », a déclaré de son côté le ministre de la Défense Israël Katz, qui a ordonné avant-hier à l'armée de mettre en place dans le sud de la Syrie une zone sans armes, sans donner plus de précisions. Alors, le nouveau régime qui se dessine à Damas et Israël ont un ennemi commun pour l'instant, c'est l'Iran. Mais bien sûr, on verra comment les choses se développent dans les jours et les semaines qui viennent.
Nous arrivons à la fin de notre émission sur la guerre de l'armée israélienne au Liban. Vous venez d'entendre Anthony Samrani, co-rédacteur en chef du journal L'Orient le Jour et auteur du livre « Vue du Liban, la fin d'un pays, la fin d'un monde ?» Ce livre est publié dans la collection Tracts de Gallimard et je vous en recommande bien sûr la lecture si vous voulez en savoir plus sur la question. Au Liban, le cessez-le-feu obtenu entre la milice du Hezbollah et l'armée israélienne n'a pas tenu longtemps. La chute du gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie a été aussi une nouvelle occasion pour l'armée israélienne, qui en a profité pour bombarder massivement le pays et envahir une partie de la Syrie. Donc, après Gaza et le Liban, c'est maintenant au tour de la Syrie d'être prise pour cible par le gouvernement israélien, et tout laisse à penser d'ailleurs que Benjamin Netanyahou n'a pas l'intention de s'arrêter à ses conquêtes, ce qui d'ailleurs fait craindre le pire pour la suite des événements au Proche-Orient et pour la souffrance aussi des populations de la région. Alors nous risquons donc d'avoir dans notre émission à reparler bientôt des conflits dans cette région du monde. Et maintenant, je tiens à remercier bien sûr Anthony Samrani et Carole Hayek pour leurs interventions sur la guerre au Liban, ainsi que les médias qui leur ont donné la parole. Merci aussi à Frédéric qui assure la diffusion des émissions Civis Pacem. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Vous voyez dynamique, le contrat pousse sur le fumier. la misère fera le reste. C'est un créneau, il y a un marché, la bourse n'attend plus qu'un geste. L'important, c'est pas tant ce qu'on vend, que ce soit ta tête ou ton cul, que la façon dont tu t'y prends. T'es libéral ou t'es foutu. La java des petits boulots, faudra t'y faire mon polo. On trafique dans la concurrence, adaptant l'offre à la demande. La vie est dure, t'as pas eu de chance. Pour que je monte, faut que je te descende. Les principes sont respectés, la fraternité dépassée. L'égalité est adaptée à la liberté d'exploiter. Tout cela, concevant le bien, peut paraître un rien déroutant. Celui qui vit déjà demain est en avance sur son temps. Il faut inventer son époque, innover sans entrave, puis intégrer le concept du choc, du bonheur et de l'économie. La java des petits boulots, faudra t'y faire, mon Jeannot. Les petits métiers disparaissent, la modernité fait la place aux petits boulots qui ont bonne presse dans l'information dégueulasse. Plus personne n'arpente les rues, traînant sa vie dans sa charrette. Il y a des cris qu'on n'entend plus, des goélandes devenues muettes. Du savoir-faire et coup de main qui se perdent au fond des poches, avec des gens qui n'ont plus rien que des crédits et quelques mioches. Le système a horreur du rien, c'est sa nature incontournable. Voyez donc comme il s'y prend bien pour remplir les dessous de table. La java des petits boulots, faudra t'y faire un populo. La java des petits boulots, faut pas s'y faire un populo.
Moi, je joue du piano, disait l'un. Moi, je joue du violon, disait l'autre. Moi, de l'harpe. Moi, du banjo. Moi, du violoncelle. Moi, du biniou. Moi, de la flûte. Et moi, de la crécelle. Et les uns et les autres parlaient, 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 parlaient de ce qu'ils jouaient. On n'entendait pas la musique. Tout le monde parlait, 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 parlait. Personne ne jouait. Mais dans un coin, un homme se taisait. Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez et qui ne dites rien? Lui demandèrent les musiciens. Moi, je joue de l'orgue de barbarie, et je joue du couteau aussi, dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis, il s'avança le couteau à la main, et il tua tous les musiciens. Et il joua de l'orgue de barbarie. Et sa musique était si vraie, et si vivante, et si jolie, que la petite fille du maître de la maison sortit de dessous le piano, où elle était couchée, endormie par ennui. Et elle dit: moi, je jouais au cerceau, à la balle, au chasseur. Je jouais à la marelle, je jouais avec un seau, je jouais avec une pelle. Je jouais au papa et à la maman, je jouais à chat perché, je jouais avec mes poupées, je jouais avec une ombrelle, je jouais avec mon petit frère et avec ma petite sœur, je jouais aux gendarmes et aux voleurs. Mais c'est fini, 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 je veux jouer à l'assassin. Je veux jouer de l'orgue de barbarie.
Et l'homme prit la petite fille par la main, et ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons, dans les jardins. Et puis ils tuèrent le plus de monde possible. Après quoi, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais l'aîné apprit le piano, le second le violon, le troisième la harpe, le quatrième la crécelle, le cinquième le violoncelle. Et puis ils se mirent à parler, 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 parler. On n'entendit plus la musique. Et tout fut à recommencer.
Mmh.
King Kong erre sur le pic blond et roux, insolent sur le pic rocheux. Où sont tes amis, cœur de pierre? Tu adhères au sol.
Thank you.